Chers frères et sœurs, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série La Sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 27 et le thème sera combattre la convoitise. Seigneur, permets que je puisse faire cette étude par moi-même, impossible. Merci pour l'Esprit Saint. S'il te plaît, qu'il puisse intervenir et m'aider. Merci. Tout d'abord, il est dit dans Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes ?» Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Et notez maintenant Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me purifie. Philippiens 4, versets 11 à 13. Et encore, 1 Timothée chapitre 6. Verset 6, la véritable foi en Dieu, c'est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. 1 Timothée 6, verset 6. Quel est le véritable enjeu? Tandis que nous examinons dans ces CD, les divers combats stratégiques que nous avons à mener dans notre vie chrétienne, eh bien, rappelons-nous certaines choses. Rappelons-nous que notre vie, nous devons lutter, vraiment lutter, contre beaucoup de nos tendances. Nous avons en effet facilement tendance à nous détourner peu à peu d'une confiance sans réserve dans le Christ, dans ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous et toutes les promesses qui sont certaines à cause de lui. Nous ne devons jamais oublier que c'est en vertu du sang et de la justice du Christ que nous sommes justifiés devant Dieu et que nous avons l'assurance de l'accomplissement de toutes ses promesses. Par la foi en Christ, nous le recevons comme notre justice et nous recevons tout ce que Dieu promet d'être pour nous en lui. C'est l'accomplissement de ses promesses qui sont fondées sur l'œuvre du Christ, que j'appelle cela la grâce à venir. Et oui, ça peut peut-être paraître pour quelques-uns, même des chrétiens, un peu bizarre. Mais croyez-moi, il y a un fait que il y a une grâce à venir. Et c'est ainsi que nous devons combattre le péché. Ou bien, pour l'exprimer de façon positive, c'est en combattant pour la foi dans la grâce à venir que nous pratiquons la justice et l'amour. Chers amis, pourquoi ? Oui, pourquoi combattre pour la foi dans la grâce à venir ? Pourquoi ? Eh bien, sans une certaine sainteté qui se manifeste concrètement, il est impossible de voir le Seigneur. Il est écrit en effet, « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Ce n'est pas moi qui le dis. Notez Hébreux, chapitre 12, verset 14. Or, nombreux sont ceux qui vivent comme si ce n'était pas le cas. Il y a des gens qui font profession de foi chrétienne et qui mènent une vie tellement contraire à la sainteté qu'ils entendront un jour ces paroles terribles de Jésus qui va leur dire « Mais je ne vous ai jamais connu. » C'est pas drôle d'entendre cela. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 23. Il y a des gens qui vont régulièrement à l'église, ce qui est très bien. Et il y en a certains qui se croient sauvés sous prétexte qu'ils ont pris un jour, ils ont donc prié un jour pour recevoir Jésus dans leur vie. Ils ont pensé que ça va comme ça, en claquant des doigts, sans réaliser que l'authenticité de cette expérience, elle est attestée par la persévérance. Je répète, l'authenticité de notre salut est attestée par la persévérance. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 13. C'est donc à des chrétiens, oui, à des chrétiens qui faisaient profession de leur foi que l'apôtre Paul a écrit, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Romains chapitre 8, verset 13. Il y a donc bel et bien, il y a donc, on peut dire, bel et bien, là, une sainteté, une véritable sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous pouvez croire cela ou pas, mais nous devons aspirer. Ça ne veut pas dire que nous y arriverons demain matin ou ce soir, mais nous devons nous aspirer à arriver à une certaine sainteté. Or, il est extrêmement important d'apprendre à combattre pour la sainteté par la foi dans la grâce à venir. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il convient d'insister sur cette stratégie particulière dans le combat contre le péché. Il existe en effet une autre façon de rechercher la sainteté qui se retourne contre nous et conduit à la mort. Aussi combien il serait tragique que je parvienne à vous persuader à partir de la Sainte Bible qu'il y a vraiment une sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ce n'est pas moi qui prétends cela. Les apôtres nous mettent en garde contre le danger de servir Dieu par tout autre moyen que la foi dans sa grâce et la force qu'elle nous procure. Par exemple, l'apôtre Pierre a écrit que celui qui sert accomplisse sa tâche, donc celui qui va nous servir, qu'il accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Ça, c'est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Quand l'apôtre Paul, il déclare, « Car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen. » Romains chapitre 15, verset 18 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Instant après, à instant. Donc, vraiment, nous devons avoir la persévérance, arrive pour nous permettre d'accomplir toute œuvre bonne selon le dessein de Dieu pour nous. Et Dieu, il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout, pour toute œuvre bonne, donc pour encore beaucoup de choses. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Le combat pour les œuvres bonnes, c'est un combat pour la foi dans cette grâce à venir. On y revient, voyez-vous. La troisième raison pour laquelle il me paraît juste d'insister sur l'importance du combat pour la foi dans la grâce à venir, c'est que j'aspire profondément à ce que Dieu soit glorifié dans notre recherche de la sainteté et de l'amour. Cependant, Dieu ne peut être glorifié que si notre recherche se nourrit de la foi dans ses promesses. Et la meilleure manière de glorifier le Dieu qui s'est révélé le plus parfaitement en Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés, pour mes péchés, et ressuscité pour notre justification, selon Romains chapitre 4, verset 25, c'est de nous saisir de ses promesses avec une joyeuse assurance, parce qu'elles ont été acquises par le sang précieux de son Fils bien-aimé. Dieu est donc honoré lorsque nous reconnaissons avec humilité notre faiblesse et notre échec, et lorsque nous lui faisons confiance pour la grâce à venir. Romains chapitre 4, verset 20. Donc, tant que nous n'avons pas appris à vivre par la foi, et je répète, dans la grâce à venir, nous pouvons pratiquer toutes sortes de rigueurs religieuses plus remarquables les unes que les autres, elles ne seront pas forcément à la gloire de Dieu. Car Dieu est glorifié lorsque la puissance qui nous rend saints provient de notre foi dans la grâce à venir. Martin Luther a dit ceci, « La foi honore de la plus haute et différente estime celui et celle en qui elle place sa confiance, car elle le juge honnête et digne de confiance. » La gloire revient donc à l'auteur, c'est-à-dire à Dieu, du don parfait qui est le sujet de notre confiance. Mon profond désir, c'est que nous apprenions à vivre pour l'honneur de Dieu. Or cela veut dire vivre, vivre par la foi, dans la grâce à venir. Ce que signifie à son tour combattre l'incrédulité sous toutes les formes qu'elle revêt, y compris la convoitise. Chers amis, chose étonnante. Parmi tous les péchés, la convoitise se classe suffisamment mal pour être interdite, et interdite de façon explicite dans les 10 commandements. Là, il est dit, « Tu ne convoiteras pas », Exode chapitre 20, verset 17. En 1 Timothée chapitre 6, verset 5 à 6, l'apôtre Paul nous donne une bonne idée de ce que revêt ce terme. Il y dénonce, en effet, les discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et ils considèrent la foi en Dieu comme étant un moyen de s'enrichir. Voyez-vous, la véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content, content avec ce qu'on a, même si le terme de convoitise n'est pas employé ici, c'est bel et bien le sujet de ce texte. Tandis que le verset 5 s'insurge contre ceux qui traitent la foi en Dieu comme étant un moyen de s'enrichir, l'apôtre Paul répond au verset 6, et nous avons dit en Timothée chapitre 6, que la véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Voilà qui nous met sur la voie d'une définition de la convoitise. La convoitise, c'est désirer tellement quelque chose que l'on n'est plus content de ce que l'on a en Dieu. L'inverse de la convoitise, c'est le contentement en Dieu. Dès lors que le contentement en Dieu décline, la convoitise, l'envie de s'enrichir, augmente. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul explique en Colossiens, chapitre 3, verset 5, que la convoitise est de l'idolâtrie. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est une idolâtrie parce que le cœur se met à rechercher ailleurs ce qu'il devrait trouver uniquement auprès de Dieu. La convoitise, c'est donc de désirer tellement quelque chose que l'on n'est plus du tout content de ce que l'on a en Dieu, ou de préférer perdre ce contentement en Dieu et de se mettre à la recherche d'autres choses. Avez-vous déjà remarqué que le décalogue commence et il se termine quasiment par le même commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi » Exode chapitre 20, verset 3. « Et tu ne convoiteras pas » Exode chapitre 20, verset 17. Ces deux commandements paraissent presque identiques. Ils sont presque identiques. Convoiter, c'est donc désirer toute autre chose que Dieu d'une façon qui trahit la perte du contentement et de la satisfaction en Dieu. La convoitise, c'est donc un cœur partagé entre deux dieux, avec un petit « d ». L'apôtre Paul l'appelle donc de l'idolâtrie. en 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 12, l'apôtre Paul exhorte à se détourner de la convoitise, s'efforçant de donner le moyen d'y échapper. Mais il est important de bien comprendre comment l'apôtre Paul considère ce combat contre la convoitise. Il donne d'abord les raisons pour lesquelles il n'est pas bon de convoiter, il les donne au verset 6 à 10 de 1 Timothée chapitre 6. Raisons sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard. Puis au verset 11, on a dit 1 Timothée chapitre 6, et au verset 11, il exhorte Timothée à fuir l'amour de l'argent et le désir d'être riche. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Au lieu de céder à la convoitise, poursuit-il, recherche la justice, recherche la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Et enfin, dans cette liste, il choisit de s'attacher particulièrement à la foi, lançant à Timothée au verset 12, « Combat, le bon combat de la foi. » Que dit-il donc au fond? Il dit « Fuis, va-t'en, prends les jambes à ton cou, fuis la convoitise, combat le bon combat de la foi. » Libre à vous de décrire de tout cela ou pas, voyez-vous. On peut le croire, on ne peut pas le croire. Mais le combat contre la convoitise, croyez-moi, ce n'est rien d'autre que le combat de la foi dans la grâce à venir. Ça paraît peut-être incroyable pour certains. Je dis encore une fois, le combat contre la convoitise n'est au fond rien d'autre que le combat de la foi dans la grâce à venir. Chers amis, à y réfléchir, c'est précisément ce qu'implique la définition de la convoitise. J'ai dit à propos de la convoitise que c'est désirer tellement quelque chose que l'on n'est plus du tout content de ce qu'on a en Dieu. Ou bien, c'est de perdre ce contentement en Dieu et de se mettre à la recherche de quelque chose d'autre, ailleurs. Or, ce contentement en Dieu, c'est justement ce que reconnaît la foi. Jésus dit en Saint Jean chapitre 6 verset 35, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. En d'autres termes, croire en Jésus, cela signifie trouver en lui la satisfaction de la soif de notre âme et de la faim de notre cœur. La foi, c'est faire l'expérience du contentement en Jésus. Le combat de la foi, c'est tout faire pour que notre cœur demeure satisfait en Jésus. C'est croire tellement et s'attacher à cette assurance qu'il répondra à tous nos besoins et il satisfera tous les désirs de notre cœur. L'apôtre Paul explique qu'il s'agit non seulement d'un combat à mener, 1 Timothée chapitre 6 verset 12, mais d'un secret à apprendre. Il dit, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Ça, c'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Philippiens chapitre 4, versets 11 et 12. Mais la force de ce témoignage apparaît plus nettement si l'on sait pourquoi l'apôtre Paul a écrit cela aux Philippiens. Il a rédigé ce quatrième chapitre de son épître aux Philippiens afin de remercier cette église pour la générosité financière qu'elle lui avait manifestée. Cependant, il avait fait plusieurs fois l'objet de beaucoup de critiques cinglantes, car certains lui ont reproché d'accomplir son ministère en ayant des arrière-pensées. Sa principale préoccupation aurait soi-disant été l'argent. L'argent des églises, l'argent des assemblées auxquelles il rendait visite plutôt que leur salut. Voyez-vous comme on est vite critiqué et comment? Autrement dit, l'apôtre Paul dit « Si je me réjouis de vos dons, ce n'est pas parce que je ne me contente plus du tout de ce que j'ai, bien au contraire. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. Pour faire taire les critiques selon lesquelles ils convoiteraient leurs dons financiers, ils déclarent que sa gratitude à leur égard n'est nullement liée à quelques insatisfactions. Il procède exactement de la même manière au paragraphe suivant, notez Philippiens chapitre 4, versets 15 à 17, il les félicite même d'être la seule église qui lui a envoyé à plusieurs reprises un merveilleux soutien. Comme vous le savez, Philippiens, dit-il, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. À la différence que cette fois-ci, au lieu de dire qu'il a appris à être content dans leurs dons, versets 11 et 12, il explique que le motif de sa joie est à leur bénéfice et non pas seulement au sien. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, mais eux aussi, qui sont plus riches maintenant en raison de leur générosité. Comme l'a dit Jésus, ils se sont amassés un trésor dans le ciel en se montrant généreux envers celui qui est dans le besoin. Saint Luc chapitre 12, verset 33. Donc, après les avoir remerciés une première fois, il leur dit, « Ne vous méprenez pas, je ne suis pas insatisfait. » Voir Philippiens chapitre 4, verset 11. Et après la deuxième fois, il prend soin d'ajouter, « Ne vous méprenez pas ce que je recherche avant tout, croyez-moi, c'est que vous soyez bénis. » Voir ou noter Philippiens chapitre 4, verset 17. Cela montre bel et bien que l'amour est l'autre face du contentement. L'amour ne cherche pas du tout son propre intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5, mais ils recherchent le bien d'autrui. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 24. Telle était donc précisément l'attitude de l'apôtre Paul. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. D'où venait donc cet élan d'amour? Mais il venait du contentement. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Par conséquent, je recherche non pas le bénéfice qui est le mien en recevant, mais le bénéfice qui est le vôtre en donnant. L'amour qui leur manifeste provient donc du contentement qu'ils éprouvent. Et d'où provient ce contentement? Philippiens chapitre 4, verset 13. Eh bien, Philippiens 4, verset 13 nous donne la réponse. Il est dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. La grâce à venir, on y revient, à laquelle Dieu pourvoit au quotidien, permet donc à l'apôtre Paul d'être rassasié ou d'avoir faim, de prospérer ou de souffrir, de connaître l'abondance ou le besoin. Lorsqu'il écrit « Je peux tout », cela veut vraiment dire « tout » et pas seulement les choses faciles. Cela signifie « En Christ, Jésus, je peux connaître la faim, la souffrance et le besoin ». Voilà qui place la stupéfiante promesse du verset 19 dans son contexte. « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera, oui, oui, selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Que signifient tous vos besoins à la lumière de Philippiens 4, verset 14? Cela veut dire tout ce dont vous avez besoin pour connaître un contentement qui soit à la gloire de Dieu. L'amour que l'apôtre Paul éprouvait pour les Philippiens provenait donc du contentement qu'il trouvait en Dieu, et son contentement provenait de sa foi dans la grâce à venir telle qu'elle se manifestait à travers l'infaillible générosité de Dieu. Aussi en découle-t-il très logiquement que la convoitise est précisément l'inverse total de la foi. Convoiter, ce n'est plus du tout trouver notre contentement en Jésus-Christ et donc de nous mettre à désirer d'autres choses dans l'espoir de satisfaire les aspirations de notre cœur. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le combat contre la convoitise est un combat contre l'incrédulité et pour la foi dans la grâce à venir. Dès que nous sentons pointer la moindre convoitise dans notre cœur, il nous faut la prendre pour cible et la combattre de toutes nos forces en utilisant les armes de la foi. L'apôtre Paul avait bien conscience que la foi s'est alimentée principalement par la sainte parole de Dieu, par des promesses comme « Mon Dieu subviendra à mes besoins ». Donc, quand la convoitise commence à dresser sa tête à vide, il nous faut réagir en nous prêchant la sainte parole de Dieu. Et dans ces moments-là, nous avons évidemment besoin d'entendre ce que dit Dieu. Nous avons besoin d'entendre ces mises en garde quant à la gravité de la convoitise et à ce qu'il advient de tous ceux qui s'y laissent aller. Et nous avons besoin d'entendre ces promesses de grâce à venir, oui, qui procurent un profond contentement à l'âme et qui libèrent notre capacité d'aimer. Voyons quelques mises en garde contre la convoitise, qu'elle nous incite à nous tourner vers les promesses qui mettent à bas la convoitise. Premièrement, la convoitise ne procure jamais la satisfaction. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée, est-il dit dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 9. Le message de l'apôtre Paul, de la sainte parole de Dieu, à propos de l'argent, c'est qu'il ne peut satisfaire jamais celui qu'il aime. Quiconque croit en Dieu se détournera de l'amour de l'argent, car ça deviendra tôt ou tard une impasse. Voici comment Jésus exprima cela en Saint-Luc, chapitre 12, verset 15. Il dit « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Si la parole du Seigneur avait besoin d'être confirmée, il y a suffisamment de gens riches et malheureux dans ce monde pour prouver que ce n'est pas ce qu'on possède qui procure la satisfaction dans la vie. Il suffit de regarder le journal télévisé pour constater qu'il y a autant de gens qui se suicident en sautant du pont de Coronado à San Diego malgré leur richesse, que du pont de Brooklyn à New York à cause de leur pauvreté. Deuxièmement, la convoitise étouffe la vie spirituelle. En racontant la parabole du semeur, selon Saint Marc chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 20, Jésus expliqua qu'une partie de la semence avait été tombée parmi les ronces. Les ronces ont évidemment poussé et ont tout étouffé, selon Saint Marc, chapitre 4, verset 4 et verset 7. Puis, il interpréta cette parabole en indiquant que la semence représente tout simplement la sainte parole de Dieu. Quant aux épines qui l'étouffent, eh bien, il s'agit des préoccupations de ce monde, c'est-à-dire de l'attrait trompeur des richesses et des passions en tout genre. Oui, Saint Marc, chapitre 4, verset 19. La convoitise nous gagne donc lorsque les passions en tout genre entrent en concurrence avec la sainte parole de Dieu. La prédication de la parole de Dieu déclenche un véritable combat. Les passions en tout genre peuvent alors être si fortes que la vie spirituelle naissante, elle risque d'être complètement étouffée. Et cette mise en garde, elle est particulièrement effrayante et nous devrions tous être vigilants, absolument, chaque fois que nous entendons la Sainte Parole de manière à la recevoir avec foi et à ne pas l'étouffer par la convoitise. C'est ce que Jésus a conclu après avoir raconté cette parabole dans Saint-Luc chapitre 8, verset 18, où il a dit « Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. » Troisièmement, la convoitise engendre de nombreux autres péchés. Quand l'apôtre Paul écrit que l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, selon 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il veut dire que le cœur qui trouve le contentement dans l'argent et non pas en Dieu, eh bien, ça c'est un cœur qui produit toutes sortes d'autres maux. L'apôtre Jacques nous en donne du reste un exemple. Il dit, vous convoitez, et comme vous ne parvenez pas à obtenir ce que vous désirez, vous vous disputez et vous faites même la guerre. Jacques, chapitre 4, verset 2. Évidemment, j'ai pris cela dans une version allemande. Alors, je parle évidemment de certains peuples qui se font la guerre actuellement. Autrement dit, si à l'image de l'apôtre Paul, nous savons être satisfaits dans les moments difficiles comme dans les plus faciles, eh bien nous ne serons pas amenés à nous disputer et à faire la guerre ainsi. La convoitise est un terrain très propice au développement d'une foule de beaucoup d'autres péchés. Et cela donne encore plus de poids à la mise en garde qui nous exhorte à fuir carrément, ficher le camp, à fuir la convoitise et à rechercher de toutes nos forces le contentement en Dieu. Quatrièmement, la convoitise ne peut rien pour nous à l'heure de l'épreuve. La convoitise ne peut rien pour nous à l'heure, par exemple, de la mort. L'apôtre Paul a écrit en 1 Timothée chapitre 6, verset 7, « Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. » Lorsque nous sommes confrontés à la plus grande crise de notre vie, et que nous avons plus que jamais besoin de contentement, d'espoir et de sécurité, eh bien notre argent et tous nos biens s'avèrent bien futiles, pour ne pas dire inutiles. En fait, ils ne peuvent rien pour nous. Ce sont au mieux des compagnons pour les beaux jours. Mais au moment d'entrer dans l'éternité, nous n'avons avec nous rien d'autre que la mesure de contentement que nous avons en Dieu notre Père céleste. Si vous deviez mourir à cet instant même, la véritable question est de savoir si vous emporteriez toute une cargaison de contentement en Dieu, ou bien si vous présenteriez devant lui avec un vide spirituel à l'endroit que occupait la convoitise dans votre vie. Ne vous y trompez donc pas. La convoitise s'avère bien inutile à l'heure de l'épreuve. Et cinquièmement, pour finir, la convoitise, elle détruit notre âme. En 1 Timothée chapitre 6, verset 9, l'apôtre Paul insiste encore. Il dit, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Pour finir, la convoitise peut détruire carrément l'âme et l'entraîner jusqu'en enfer. Attention! Si je suis sûr que ce dont parle ici, dont parle ici l'apôtre Paul, si je suis sûr que ce n'est pas une simple débâcle financière temporaire, eh bien, l'anéantissement, ça peut être l'anéantissement définitif en enfer. Eh oui, et c'est en raison de ce qu'il dit lui-même au verset 12. On a dit de 1 Timothée chapitre 6 que après avoir indiqué que nous devons résister à la convoitise en menant le combat de la foi, l'apôtre Paul ajoute « Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi, le fait de fuir la convoitise et de rechercher le contentement dans la grâce à venir a donc bien pour enjeu la vie éternelle. » Alléluia. Par conséquent, quand l'apôtre Paul affirme en 1 Timothée chapitre 6 verset 9 que le désir d'être riche précipite les hommes dans la ruine, il ne veut pas dire par là que la cupidité peut gâcher votre couple ou votre entreprise, ce qui est certainement le cas. Il veut dire que la convoitise, elle peut gâcher toute votre éternité. Ou bien, comme le dit pour finir le verset 10, on a dit 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Littéralement, ils se sont transpercés l'âme d'un grand nombre de douleurs. Dieu s'est particulièrement donné de la peine dans la Sainte Bible pour nous avertir avec beaucoup de miséricorde que l'idolâtrie que constitue la convoitise ne peut absolument rien nous apporter de bon. C'est une impasse, pour ne pas dire un coupe-gorge. C'est à la fois une escroquerie et un piège. Oh oui, par conséquent, je ne peux que vous conseiller ce que nous dit l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 6, verset 11, prenez-vous les jambes à votre cou, fuyez la convoitise. Dès que vous la voyez pointer, que vous voyez pointer son nez, que ce soit à travers une publicité télévisée, par un catalogue de Noël, un message s'affichant spontanément sur Internet, ou un achat effectué par un voisin, d'étaler comme vous le feriez face à un lion rugissant et qui est très affamé et qui peut-être s'est échappé d'un jardin zoologique. Mais pour aller où? Oui, pour aller où? Il faut donc se précipiter, mes chers amis, vers l'arsenal de la foi. Et il nous faut s'emparer de la cape de la prière que l'on trouve dans le psaume 119, verset 36, afin de s'en envelopper. Incline mon cœur, est-il dit, vers tes préceptes et non vers le gain. Autrement dit, accorde-moi, s'il te plaît, la grâce à venir d'avoir le cœur animé par tes valeurs, afin que j'aie pour ta vérité une soif qui triomphe de mon appétit pour les biens matériels. Sans la grâce de Dieu à venir, notre cœur recherche évidemment les richesses matérielles. Nous devons prier en demandant à Dieu d'incliner notre cœur vers sa sainte parole qui promet la victoire sur la convoitise. Après avoir revêtu cette cape de la prière, nous devons nous empresser de prélever deux sabres dans l'arsenal que constitue la sainte parole de Dieu, un sabre court et un autre long, spécialement fabriqué par le Saint-Esprit pour mettre à mort la convoitise. Et nous devons donc nous tenir à la porte et défendre notre terrain. Quand le lion de la convoitise surgit, prêt à nous dévorer, il s'agit de lui montrer le plus court de nos deux sabres, ou de nos deux épées, à savoir 1 Timothée chapitre 6, verset 6, où il est dit « La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Cette parole, nous devons la prêcher à notre âme et la lancer en direction de la cupidité qui nous assaille. Une source de richesse, la foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Reste où tu es, lion de la convoitise. Je suis riche quand je trouve le contentement en Dieu. Il est mon trésor aujourd'hui et il le restera jusqu'à la fin. Telle est donc ma foi dans la grâce à venir. Donc, va-t'en, fiche le camp. Ensuite, supposons que le lion insiste, alors il faudra que nous prenions le sabre, le long sabre, l'épée la plus longue, selon Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6, où il est dit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je te ne laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que pourraient me faire les hommes ?» Confiant dans cette promesse de la grâce à venir pleinement satisfaisante, nous l'enfonçons dans la poitrine du lion de la cupidité. En fait, nous faisons exactement ce que l'apôtre Paul recommande en Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites mourir la convoitise. Et nous terminons notre étude. Mes très chers frères et sœurs, toute convoitise, c'est de l'incrédulité dans la grâce à venir. Apprenez donc avec moi, je vous en conjure, à utiliser l'épée de l'esprit pour combattre le bon combat de la foi et emparez-vous surtout de la grâce à venir qui est la vie éternelle. La grâce à venir, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre encouragement personnel. Et oui, alors, écoutez bien. Seigneur mon Dieu, tu es tout mon bien. Et qui suis-je pour oser te parler? Je suis le plus pauvre de tes serviteurs. Je me souviens cependant, Seigneur, que je ne suis rien, que je n'ai rien et que je ne puis rien sans ton aide. Tu es seul bon, tu es seul bon, juste et saint. Tu es pour moi absolument tout. Tu donnes tout et tu remplis par ton Esprit Saint toute ma vie. Souviens-toi de ta miséricorde et remplis mon cœur de ta grâce, toi qui ne voulais point qu'aucun de tes ouvrages demeure vide. Comment puis-je, en cette misérable vie, porter le poids de moi-même si ta miséricorde et ta grâce ne me fortifient? Ne détourne pas de moi ton visage, ne diffère pas à me visiter, ne me retire point ta consolation de peur que privée de toi, mon âme ne devienne comme une terre sans eau. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté, apprends-moi à vivre d'une vie humble et digne de toi, car tu es ma sagesse. Oui, tu me connais dans la vérité et tu m'as connu avant même que je fusse au monde. Amen. Et maintenant, prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Dieu saint et miséricordieux, nous quittons pour venir auprès de toi les bruits du monde qui toujours à nouveau détruisent la paix de nos cœurs. Nous voici donc hors de la fièvre du jour qui nous arrache trop souvent aux divines réalités de la vie profonde. Nos fautes nous remplissent d'amertume, tourmente notre conscience et nous restons saisis de terreur devant ton saint regard. Ô Seigneur, viens nous en aide, accorde-nous une éternelle consolation par ta sainte parole et que notre foi fortifiée confesse joyeusement ton saint nom à la face du monde qui ne veut point te connaître ni te reconnaître. Amen. Et maintenant, chers amis, je vais essayer de vous mettre encore un ou deux chants d'un très lointain passé. Figurez-vous, oui, environ 1952-54. C'est bien loin tout cela. Mais essayons si ça fonctionne. Parfois, ça fonctionne pas tellement.
Shabbat Shalom. Ma